RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Léa Boutin-Rivière pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous. Des inondations historiques en Chine, dans la province du Guizhou. L'eau a atteint des niveaux records hier après être montée à une vitesse express. Les pluies ont cessé, mais plusieurs villages restent les pieds dans l'eau.
En France, Éric Ciotti en colère, il est classé à l'extrême droite par le ministre de l'Intérieur.
Comme la soixantaine d'autres candidats, les Républicains qui ont fait alliance avec le Rassemblement National en vue des législatives anticipées, classification fondée sur une récente décision du Conseil d'État. Dans ce journal également, le Néerlandais Mark Rutte, a priori, seul en piste pour la course à la présidence de l'OTAN. Et puis, les Bleus inquiets avant leur match face aux Pays-Bas ce soir. La présence de Kylian Mbappé toujours incertaine.
Des inondations jamais vues depuis des dizaines d'années en Chine.
La province du Guizhou, dans le sud du pays, fait face à des inondations qualifiées d'historiques par les autorités. Ces derniers jours, le niveau des fleuves et des rivières est monté très rapidement, prenant les habitants de court. Assez vite, les eaux du barrage ont été libérées pour enrayer la situation. Mais cette intervention est arrivée trop tard. Résultat, Stéphane Lagarde, même si les pluies diluviennes se sont arrêtées, une partie des villes et des villages sont encore sous les eaux.
Comme à chaque inondation, c'est la vitesse de la montée des eaux qui a marqué les esprits à Guilin. La région est connue pour ses pics karstiques magnifiques et ses splendides rizières en terrasse. Pendant deux jours, la carte postale a été submergée par l'eau des pluies d'été. Un torrent boueux qui a surpris hier cette vendeuse de vêtements contactée par RFI.
L'eau est arrivée si vite qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. On a ouvert le magasin le matin, puis à midi, on nous a dit d'aller chercher les enfants. Mais toutes les routes étaient bloquées, les ponts étaient fermés, car l'eau est montée très vite encore une fois. Plusieurs quartiers se sont retrouvés sans électricité. Certains ont eu aussi des problèmes d'accès à l'eau courante. Maintenant, ça va mieux. L'eau se retire peu à peu. À l'entrée du magasin, elle nous arrivait jusqu'aux genoux.
Selon les autorités, mercredi, la rivière Lijiang a dépassé son niveau historique, atteint en 1998. À l'époque, les inondations dans le sud de la Chine avaient duré deux mois, ravagé 24 provinces et fait plus de 3000 victimes. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
De nouveaux échanges de tirs nourris à la une aussi à la frontière entre Israël et le Liban.
Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques hier, notamment le tir de plusieurs dizaines de roquettes vers le sol israélien. L'armée a de son côté affirmé avoir tué un commandant du mouvement libanais et frappé une cible militaire. Les tensions continuent de monter donc entre le Hezbollah et Israël, alors que dans la bande de Gaza, les combats semblent avoir perdu en intensité ces derniers jours. Une accalmie toute relative, car même s'ils sont moins nombreux, les bombardements restent récurrents. C'est ce que raconte ce Gazaoui contacté de Jérusalem par notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhalifa.
On entend moins de bombardements, mais les drones israéliens sont toujours là, raconte Mohamed. Originaire de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le jeune homme a trouvé refuge à Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave, déplacé de force par les combats.
À Deir el-Balah, la situation est plus ou moins stable, Dieu merci. Mais il y a toujours des frappes qui ciblent Nusayrat, pas loin d'ici. Quant à Rafah, ne me demandez pas quelle est la situation là-bas, plus personne n'y a accès. Même les journalistes gazaouis n'y vont plus. La ville est entière bouclé par Israël. Ils en ont pris le contrôle.
L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre contre Rafah il y a un mois et demi, persuadée que le commandement du Hamas y était retranché. Les dirigeants du groupe armé palestinien sont toujours introuvables. Mais cette opération a contraint plus d'un million de civils palestiniens à fuir selon l'ONU. Aujourd'hui, Mohamed espère le retrait de l'armée israélienne afin de rentrer chez lui.
L'armée était positionnée à 200 ou 300 mètres de notre maison. Aux dernières nouvelles, notre maison était toujours debout lorsque nous avons fui. Mais je sais qu'une grande partie de Rafah a été entièrement rasée par des frappes israéliennes. Les destructions s'étendent à perte de vue.
Après plus de 40 jours de combats à Rafah, l'armée israélienne affirme avoir éliminé la moitié des forces du Hamas présentes dans ce secteur du sud de la bande de Gaza. Mais un porte-parole de l'armée a exprimé un doute quant à l'éradication totale du groupe armé palestinien. Il a été immédiatement recadré par le gouvernement israélien. Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Et c'est dans ce contexte que les rapports entre Israël et les États-Unis se sont à nouveau crispés. Les autorités américaines ont qualifié de décevants et même d'offensants les propos de Benjamin Netanyahou, selon lesquels les Américains retiendraient une partie des livraisons d'armes destinées à l'État hébreu.
En France, nouveau coup dur pour celui qui s'accroche à son siège de patron des Républicains, Éric Ciotti.
Et le navire Ciotti tangue à 10 jours des élections législatives anticipées et subit de nouvelles turbulences. Le candidat a été classée à l'extrême droite par le ministère de l'Intérieur, tout comme la soixantaine d'autres candidats issus de l'alliance entre les Républicains et le Rassemblement National. Une classification jugée stigmatisante par le patron des LR. Pourtant, il s'agit bien d'une désignation légale et même fondée sur une jurisprudence très récente et tout ce qu'il y a de plus officiel, Raphaël Delvolvé.
C'est un cas unique en Europe. En France, les nuances politiques sont définies par le ministère de l'Intérieur. Officiellement, il s'agit d'éclairer les citoyens pour les élections. Elles se réfèrent soit à un parti politique très connu, comme le Rassemblement National ou la France Insoumise, soit aux idées défendues par le ou les candidats. En l'occurrence, les ciottistes n'étant que 62 sur plus de 500 investitures RN, la classification de cette union inédite prend en compte la forte domination dans l'alliance du Rassemblement National, dont le positionnement à l'extrême droite a récemment été confirmé par le Conseil d'État. Ce qui joue aussi dans la classification du ministère, c'est la division au sein du Parti des Républicains. Dans un souci de lisibilité, ce sont les quelques 400 candidats de la frange anti-Ciotti qui bénéficient de la nuance classique LR. Éric Ciotti dénonce aussi un « deux poids, deux mesures ». De l'autre côté de l'échiquier, le nouveau Front Populaire est désigné sous le terme « Union de la gauche ». Le toujours président des LR y voit une terminologie bien plus douce. Cette alliance regroupe des socialistes, des insoumis, mais aussi, dans une moindre mesure, le nouveau parti anticapitaliste qui, lorsqu'il concourt seul, est classé à l'extrême gauche.
Et dans la rue, des milliers de personnes continuent de se mobiliser contre l'extrême droite. Par ailleurs, 200 associations féministes et syndicats appellent à se rassembler de nouveau dimanche.
RFI, 10h07 à Nairobi, au Kenya, secoué hier par une journée de mobilisation historique.
Occupy Parliament, occuper le Parlement, c'est le nom de ce mouvement créé pour contester le projet de loi de finances 2024. Un texte qui suscite la colère de la population car il prévoit de nouvelles taxes. Ils étaient donc plusieurs dizaines de milliers hier dans les rues des grandes villes du pays à réclamer l'abandon de ce projet, venu encore plus nombreux que lors de la journée de mobilisation précédente malgré la répression policière. Car Gaël Lalex, le mouvement se propage largement sur les réseaux sociaux.
La vidéo est devenue virale. Le groupe de hackers Anonymous soutient le mouvement Occupy Parliament. Dans les rues du centre-ville, masque sur le visage, Alfonso filme avec son téléphone portable. Il se présente comme un vidéaste militant numérique.
Nous sommes sérieux. La jeunesse est sortie, la génération Z. L'ère digitale prend une nouvelle forme. C'est global maintenant. Nous sommes une communauté. Nous pouvons mobiliser. Les vieux ont fait leur temps. Nous sommes la jeunesse et il est temps pour nous de prendre les choses en main.
C'est sur TikTok que Félix a appris la manifestation du jour. Il n'en a pas fallu plus pour le mobiliser.
Les jeunes Kenyans, on lutte pour gagner notre vie. J'ai 23 ans, je suis de la génération Z, je me bats pour nos droits parce qu'on souffre. Je crois en une nouvelle révolution de jeunes qui viennent d'arriver sur le marché de l'emploi, comme moi, qui travaille à droite à gauche.
Malgré les gaz lacrymogènes et les charges de la police, les rues se gonflent de jeunes habillés en noir, smartphone à la main. Roger, mototaxi, n'en revient pas.
Les jeunes, il en vient de partout. Ils perturbent notre travail. Mais ils ont raison. Ils demandent justice. Il faut que notre président écoute les Kenyans. Ils sont en colère.
Adopté hier par les députés, le projet de loi de finances doit encore être présenté au Sénat le 25 juin. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
L'Afrique, désormais dotée d'un dispositif spécifique pour fabriquer plus de vaccins sur son sol. Il s'agit de l'accélérateur africain de fabrication des vaccins mis sur pied à l'issue du Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé hier à Paris. L'occasion de récolter 1 milliard 200 millions de dollars de promesses de dons, au-delà donc de ce qui était attendu. Plusieurs dossiers attendent cet accélérateur avec une priorité Claire Fage, produire plus de vaccins contre le choléra.
Inondations répétées, sécheresses, déplacements ont privé d'eau potable les populations. En Afrique, les cas de choléra se sont multipliés au point que l'Alliance Gavi s'est retrouvée à court de vaccins en début d'année, car il n'y a plus qu'un fournisseur, le sud-coréen Eubiologics. Pour Jean Kaseya, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, c'est évident, l'Afrique doit pouvoir fabriquer ce vaccin sur son sol.
Le choléra, nous avons déjà 5000 morts. Nous devons avoir un vaccin.
C'est aussi le choléra qu'Emmanuel Macron a choisi de citer comme cible prioritaire du nouvel accélérateur africain de fabrication de vaccins.
Le choléra frappe aujourd'hui durement la moitié de l'Afrique. Depuis quelques semaines, le territoire de Mayotte est aussi touché. Alors si vous partagez cette ambition de renvoyer le choléra au passé, en soutenant ces actions d'urgence, d'investissement dans la production locale et dans la prévention de long terme. Je vous invite à rejoindre cette initiative contre le choléra aux côtés de 12 pays et organisations présents ce matin dans cette pièce.
Première démonstration concrète de soutien, la France consacrera 10 millions d'euros pour accélérer la production par BioVac de ce vaccin contre le choléra en Afrique du Sud.
Claire Fage. La voie est libre pour Mark Rutte. Le Premier ministre néerlandais est le dernier candidat en lice pour prendre la tête de l'OTAN. Hier, le président roumain Klaus Iohannis a annoncé renoncer à sa candidature pour prendre la suite de Jens Stoltenberg à la tête de l'Alliance Atlantique depuis 10 ans. A priori, rien ne s'oppose donc à ce que Mark Rutte décroche le poste. Lui qui avait recueilli le plus de soutien parmi les 31 pays membres et tout particulièrement celui du président américain Joe Biden, Pierre Benazé.
Depuis le sommet européen de lundi, tout paraissait joué. D'une part, la troisième candidate, la première ministre estonienne Kaja Kallas, devrait devenir la chef de la diplomatie de l'UE. D'autre part, Mark Rutte et le Hongrois Viktor Orban ont enterré la hache de guerre. Mark Rutte a donc désormais le soutien de tous les Européens. Et en Amérique du Nord, sa capacité passée à amadouer Donald Trump joue fortement en sa faveur. Le nouveau gouvernement batave doit prêter serment le 2 juillet devant le roi Guillaume Alexandre. Et Mark Rutte n'aura donc qu'une semaine de battement avant le sommet de l'OTAN à Washington, le 9 juillet, où il sera adoubé en grande pompe par les Alliés. Mais sa nomination formelle pourrait même intervenir officiellement la semaine prochaine au siège de l'OTAN. Dirigeant d'un pays traumatisé par la catastrophe du MH17, abattu en plein vol au-dessus de l'Ukraine par un missile russe, Mark Rutte a fortement engagé les Pays-Bas aux côtés de Kiev. Il s'apprête à diriger l'OTAN au moment où l'Alliance a retrouvé sa raison d'être originelle face à la Russie. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
À la une également de l'actualité, cette restructuration à la tête de la police en Haïti.
Après 2 ans de mandat, peu de résultats et des dizaines de critiques, le chef de la police nationale, Franz Elbé, a finalement été débarqué. Décision entérinée hier par le Conseil des ministres. Dans la foulée, le gouvernement a désigné un remplaçant, Normile Rameau, qui avait déjà occupé le poste entre 2019 et 2021. Pas forcément une bonne nouvelle, selon Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au Réseau national des droits humains en Haïti.
Il faut le dire, malheureusement, ces résultats ont été très mitigés, à la limite inexistants. C'est vrai qu'il y en a qui disent que, en fait, à l'époque, et là, on était sous la présidence de Jovenel Moïse, que lui, Normile Rameau, il a eu des contraintes. Mais nous, au RNDDH, nous répondons qu'en fait, il aurait dû démissionner. Parce que aujourd'hui, pour n'avoir pas démissionné, il traîne ses mauvais résultats lorsqu'il était à la tête de la police nationale d'Haïti. Et par conséquent, faudra parler de cette absence de résultats. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous accueillons sa nomination, sa renomination, si je peux me permettre ce terme, parce que de toute façon, nous pensons que c'est une très bonne chose que nous n'ayons plus Franz Elbé à la tête de l'institution policière. Et nous espérons que lui, Normile Rameau, qui pourra donner les résultats attendus par la population, c'est-à-dire une amélioration tangible, visible de la situation sécuritaire.
Propos recueillis par Michael Ponge. Et puis du sport avec l'Euro de football ce soir et un vrai défi pour l'équipe de France. Les Bleus vont affronter les Pays-Bas et ils vont peut-être devoir le faire sans leur carte maîtresse Kylian Mbappé qui a subi une importante fracture du nez. Antoine Grenier.
Un masque bleu-blanc-rouge frappé du coq et de ses initiales, de son numéro 10, sans oublier les 2 étoiles. Voilà le nouvel outil de travail de Kylian Mbappé. L'attaquant français, muni de son nouvel équipement à l'entraînement de veille de match, rencontre face aux Pays-Bas dont il est très incertain, mais pas forfait, précise le milieu de terrain Adrien Rabiot.
Et bien sûr, l'absence de Kylian, c'est un coup dur. Après, j'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore donné absent, donc c'est pas encore acté. Forcément, ça va peser. Notamment aussi pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs.
Un adversaire néerlandais que les Bleus affrontent avec l'objectif d'aller chercher une 2e victoire après celle face à l'Autriche. Et même sans le capitaine Mbappé, Antoine Griezmann estime que la France a de la ressource.
Je pense que ce serait toute l'équipe qui devrait s'adapter. Je ne sais pas du tout s'il va jouer ou non, mais qui est l'un des meilleurs joueurs du monde ou dans ton équipe sur le terrain, ça change énormément. Donc on verra ce qu'il en est, mais dans le foot, il faut toujours s'adapter à chaque match. C'est ce qui doit faire notre force aussi, qu'à chaque adversaire, on puisse trouver les points faibles et être costaud comme contre l'Autriche. On savait que ça allait être un match physique et on a répondu présent.
Match face à l'Autriche dont le seul but était venu d'une action signée Mbappé. Antoine Grenier, Essen, RFI.
9h15 ici à Paris, je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Léa Boutin-Rivière. À demain, tout de suite la revue de presse. Avec vous Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, la campagne électorale en France marquée par le viol d'une jeune fille de confession juive.
C'est le New York Times qui se fait l'écho de cette agression, dont la presse française a aussi fait ses grands titres, expliquant que le viol présumé le week-end dernier d'une jeune fille juive de 12 ans par des garçons qui lui ont lancé des injures antisémites a déclenché des tensions latentes en France sur l'attitude envers la plus grande communauté juive d'Europe centrale, d'Europe occidentale. Les élections françaises deviennent un cauchemar pour les juifs du pays, s'exclame le quotidien américain qui ajoute « La place des juifs dans la société française est devenue un thème majeur de l'élection parce que le parti autrefois antisémite du Rassemblement national de Marine Le Pen, dont la position anti-immigration est au cœur de la popularité croissante, a été l'un des plus fervents partisans d'Israël et des juifs français depuis l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre contre Israël. À l'autre bout de l'échiquier politique, la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, auquel le New York Times reproche d'avoir été véhément dans sa dénonciation de l'opération militaire à Gaza. Dénonciation, nous dit-on, qui a souvent semblé virer à l'antisémitisme pur et simple. Au deuxième tour des élections législatives, le 7 juillet prochain, l'affrontement se déroulera probablement entre les deux extrêmes, prévoit le New York Times, qui prend l'exemple du philosophe juif Alain Finkielkraut, lequel se dit confronté à un choix impossible, alors que le célèbre chasseur de nazis et éminent juif français Serge Klarsfeld a déclaré cette semaine à la stupeur générale qu'il voterait pour le Rassemblement national s'il devait choisir entre le RN et la France insoumise.
En France, le journal La Croix revient lui aussi sur ce viol d'une jeune fille juive survenu le week-end dernier.
La Croix qui précise d'entrée, le viol collectif dénoncé par une toute jeune fille cette semaine est avant tout un drame individuel et un échec collectif. Qu'elle soit de confession juive et molestée pour cette raison, rajoute de l'horreur à l'horreur et place le thème de l'antisémitisme au cœur d'une campagne législative éclair et quelque peu cacophonique. Mais le quotidien catholique déplore que le calvaire d'une jeune fille juive fasse l'objet de récupérations tous azimuts, estimant que l'antisémitisme, ce fléau, est l'affaire de chacun, en cela qu'il est incompatible avec les valeurs de la République.
Enfin, en Suisse, le journal Le Temps a cherché à comprendre le succès du Rassemblement national chez son voisin français.
Le quotidien suisse s'est rendu dans les Alpes pour nous parler de cette France où colère se dit RN. Il n'a pas fallu chercher longtemps pour rencontrer les électeurs de l'extrême droite aux élections européennes. C'est 31,4% qui ont amené le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale et font trembler le pays à quelques jours des législatives, précise Le Temps. Le quotidien suisse a rencontré Nathalie Pillard, la patronne d'un café-restaurant qui énumère les maux de la France. La hausse des taxes et des prix, l'insécurité, les incivilités, quand ça braille et que ça pétarade sous les fenêtres la nuit, quand ça caillasse du flic, quand on s'en prend même aux infirmières, quand on veut accueillir toute la misère du monde et qu'on est à saturation, etc. etc. Et elle ajoute « Comme on a tout essayé, reste le RN ». Mais Le Temps a aussi rencontré quelques habitants qui ne voteront pas pour l'extrême droite. C'est le cas d'Olivier, d'origine brésilienne, qui s'exclame « Ici, les gens ont peur, mais de quoi ? Regardez, nous sommes entourés de vaches et de cochons, comme si leur bétail ou leur terre allaient leur être enlevées. Lui votera à gauche, assure Le Temps, qui semble soulagé. »
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup, très bonne journée. C'était il y a 3 mois, quasiment jour pour jour, un attentat meurtrier frappait Moscou le 22 mars, 143 morts, dans une salle de concert en banlieue de la capitale russe. Revendiquée par l'organisation État islamique, l'attaque du Crocus City Hall a traumatisé une population russe largement convaincue que le terrorisme de masse ne pouvait pas la frapper. Quelles répercussions trois mois plus tard? Bonjour Anissa El-Jabri.
Bonjour.
En Russie, le drame a disparu des écrans au bout de quelques semaines, mais il a aussi entraîné des tensions diplomatiques inédites avec le Tadjikistan, d'où sont issus les suspects présumés. Alors depuis, la page semble officiellement tournée entre les deux pays qui restent proches, mais une question reste sur la table. Le sort des travailleurs migrants tadjiks en Russie. On écoute votre reportage, Anissa, et on en parle juste après.
Au départ de Douchanbé pour Moscou, le même processus depuis bientôt deux mois. Un passeport scruté sous toutes ses coutures, un visa pour la destination vérifié de manière démonstrative, appuyée et même rugueuse. On a eu trop d'amendes pour irrégularité, c'est justifié lors du passage des RFI, le préposé au contrôle de la compagnie aérienne. C'est que depuis l'attentat du Crocus, la Russie passe au peigne fin. Tout vol en provenance du Tadjikistan, mais pas seulement. Écoutez le témoignage de ce Tadjik qui fait depuis 15 ans la navette entre les deux pays. Inquiet de possibles représailles, il a demandé à ne pas être identifiable.
Dès le mois d'avril, énormément de compagnies volant entre les deux pays ont refusé de prendre des Tadjiks à leur bord. Northwind et Uter, par exemple. D'une manière générale, tout trajet est devenu extrêmement compliqué. Il y a eu aussi une période où l'aéroport de Vnukovo à Moscou refusait carrément tout le monde. C'est même arrivé au point où l'ambassadeur de Russie au Tadjikistan a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.
Une tension totalement inédite entre deux pays réputés pour entretenir un partenariat sécuritaire particulièrement étroit. Reste que la dépendance économique de Douchanbé vis-à-vis de Moscou est immense. Le PIB de ce pays très fermé, ultra-autoritaire, dépend à plus de 40% des transferts des migrants en Russie. Et beaucoup ont fui dans les jours qui ont suivi l'attentat, comme cet homme qui a lui aussi demandé l'anonymat.
Je travaillais comme livreur et la police s'était mise à m'arrêter très souvent, deux à trois fois par semaine. Il y avait des barrages de police partout, ils vérifiaient tout, les permis de conduire, les passeports, ils prenaient les empreintes. J'avais très très peur, je ne voulais pas avoir de problème. Vous savez, ils peuvent nous déporter au pays et nous interdire de séjour très longtemps.
Pendant ce temps-là, en Russie, ils sont nombreux, notamment dans le secteur du bâtiment, à chercher des bras. Écoutez ce chef d'équipe tadjik.
J'ai énormément de propositions, mais je n'ai pas assez d'hommes qualifiés et je n'arrive pas à terminer toutes les commandes auxquelles je m'étais engagé. Mes clients se fâchent contre moi parce que je suis en retard sur tous les chantiers. Mais qu'est-ce que je peux y faire?
Parmi les travailleurs toujours autorisés à travailler en Russie, la volonté de retourner pour mieux y gagner sa vie semble intacte, mais ils sont nombreux à dire avoir encore besoin d'être rassurés.
Alors Anissa, on vient d'entendre que des deux côtés, il y a un besoin de circulation des travailleurs migrants. Est-ce que ça veut dire que cette situation va s'arranger ?
Ce qui est sûr, c'est que la nécessité économique est réelle. Elle est vitale au Tadjikistan et elle a déjà un impact global. Certains observateurs à Douchanbé ont parlé du ralentissement très sensible de leur activité. Moins de migration de travail, c'est moins d'argent dans les caisses et l'économie d'un pays très pauvre. Les rares migrants rentrés de Russie que j'ai pu rencontrer dans ce pays tenu d'une main de fer, ceux-là disent gagner en moyenne 50% de moins qu'en Russie. Enfin, la Russie est de son côté en pleine période, c'est l'été où les travaux battent leur plein. Elle a d'autant plus besoin de bras que son économie, dopée aux dépenses de défense, est en surchauffe.
Il y a eu aussi, Anissa, des mots et des gestes d'apaisement officiels.
Oui, le 3 mai dernier, Vladimir Poutine invitait son homologue tadjik au défilé du 9 mai sur la Place Rouge, un signe d'apaisement très étudié après des semaines de tensions par chef de la diplomatie interposée. Douchanbé dénonçait des violations des droits de ses ressortissants. Moscou invoquait la nécessité de contrôle et vérification renforcées. Alors cette invitation, elle a eu lieu lors d'un coup de fil direct entre chefs d'État rendu public par deux communiqués séparés. Chacun y soulignait les enjeux communs, mais pas dans le même ordre. Les deux dirigeants ont discuté de coopération dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine migratoire, disait le communiqué du Kremlin. La présidence tadjik a, elle, indiqué, dans l'autre ordre donc, ils ont discuté en détail des questions de coopération dans le domaine des travailleurs immigrés et souligné l'étroite coordination de leurs forces de sécurité.
Et Anissa, vous le disiez aussi dans votre reportage, les deux pays ont également une très forte coopération sécuritaire depuis la fin de l'URSS.
C'est vrai, même si sur le terrorisme islamiste, Douchanbé estime sans doute faire déjà largement sa part et sans doute très au-delà. Tout signe extérieur de religion y est sévèrement contrôlé, le port de la barbe est interdit, celui de vêtements islamistes islamique aussi. Le grand moufti a encore récemment dénoncé, je cite, « les tentatives d'importer des coutumes de l'étranger dans ce pays très autoritaire. Chacun sait que la police veille à chaque coin de rue et arrête à tour de bras ceux qui ne se conforment pas aux consignes d'ordre public. Reste que le pays, comme de plus en plus la zone de l'Asie centrale, est devenu une cible prioritaire de la propagande de la branche de l'EI qui a frappé à Moscou. Le Tadjikistan a une fragilité supplémentaire. Plus de 1300 km de frontière avec l'Afghanistan. Une grande partie se trouvant en zone accidentée montagneuse. Elle n'est pas facile à traverser, c'est vrai, mais elle est aussi plus difficile à protéger.
Notre grand dossier de ce matin à Moscou avec vous, Anissa El Jabri. Merci beaucoup. Comme chaque vendredi, les dessous de l'Infox, cette semaine, cap sur l'Euro de football qui se poursuit en Allemagne. La France joue ce soir contre les Pays-Bas. Ce sera à suivre en direct sur RFI d'ailleurs. Mais c'est sur un autre terrain qu'on joue ce matin. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
Une semaine après le début de la compétition, la menace informationnelle pointée par les organisateurs s'est avérée. Plusieurs fausses infos ciblant le tournoi sont devenues virales sur les réseaux ces derniers jours. Elles proviennent de comptes différents. Mais on peut le dire, Grégory, des acteurs déjà bien identifiés ciblent délibérément l'Euro 2024 à des fins de propagande.
Oui, l'exemple le plus marquant a ciblé les supporters de la Roumanie. Après la victoire de leur équipe 3-0 contre l'Ukraine ce lundi, les fans ont été accusés d'avoir chanté à la gloire de Vladimir Poutine et d'avoir ajouté des drapeaux pro-russes, d'avoir agité des drapeaux pro-russes pour provoquer les Ukrainiens, sauf que tout est faux. La photo censée montrer le drapeau de la République autoproclamée de Donetsk brandi dans le stade est un montage. La rediffusion du match montre qu'aucune bannière noir-bleu-rouge n'a été filmée durant la rencontre. Quant à la vidéo dans laquelle on croit entendre des supporters roumains chanter le nom du président russe Vladimir Poutine, eh bien là aussi il y a manipulation.
Concrètement, comment cette vidéo a-t-elle été trafiquée?
Eh bien quelqu'un a changé la bande-son de la vidéo. Les témoignages des supporters et des officiels présents dans le stade sont unanimes. Personne n'a entendu de slogan pro-Poutine résonner dans l'Allianz Arena de Munich. Ce chant Poutine, Poutine a donc été superposé sur les images de fans en train de célébrer un but. Et c'est là que ça se complique. Non seulement la bande-son n'est pas la bonne, mais en plus, elle transforme un chant insultant Vladimir Poutine, très célèbre en Ukraine, en chant de soutien au président russe. Voici la version originale chantée en Ukraine. On entend bien Poutine rouillot, Poutine est un con en français. Et voici cette fois la version trafiquée, superposée sur les images de fans roumains. L'insulte a donc été coupée au montage, changeant totalement le sens du chant. En réponse à cette polémique, l'UEFA et la Fédération roumaine de football ont dénoncé une manipulation grossière.
Mais alors, qui est à l'origine de cette fausse information?
Ce que l'on sait à ce stade, c'est que cette vidéo manipulée, elle apparaît pour la première fois en ligne dans l'après-midi du 17 juin sur des comptes Telegram russophones, des chaînes déjà identifiées comme des maillons importants de la propagande russe. La vidéo se répand ensuite sur Twitter, cumule des millions de vues et se retrouve diffusée telle quelle dans des médias réputés, généralistes et spécialisés. Ceux qui en sont à l'origine ont donc réussi leur coup.
Et Grégory, on le disait, cette infox n'est pas la seule à viser l'euro.
Non, plus d'une dizaine ont déjà atteint une certaine audience sur les réseaux ces derniers jours. Notre travail de veille montre aussi que des acteurs pro-russes ciblent la compétition. Un faux reportage usurpant l'identité de la BBC et un faux graffiti du président ukrainien assis sur la coupe du tournoi circulent actuellement à bas bruit sur Telegram, des modes opératoires typiques de la propagande russe.
Grégory Genevrier pour les dessous de l'Infox, merci beaucoup tout le travail de votre cellule Info Vérif, à retrouver évidemment sur RFI.fr. Bienvenue sur la radio du monde si vous nous rejoignez. Bientôt 7h30 en temps universel, l'info continue.
RFI, la sélection du mois.
Jean-Claude Nemrot et Kélia Pola. Erwan.
C'est pas pour le beau. Beau, même si on se casse le dos. Dos, on fait de l'or avec nos sanglots.
RFI Musique.
à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
En ce 21 juin, nous fêtons la musique avec une nouvelle figure montante du rap congolais au féminin, Jessie B, lauréate du prix Découverte RFI 2023. Elle en a fait du chemin depuis son premier titre Joli Bébé. Alors avant la sortie d'un mini-album, elle va nous présenter son nouveau single, Maïmouna.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI. En sol majeur, Yasmin Chouaki.
Avec Sabine Wynne pour Elvis à la radio et Prendre la mer, 60 sonnets pour les Boat People. Avec cette voix d'enfant née à Saïgon qui a quitté la France pour s'ancrer en Israël, En sol majeur propose un voyage au pays de Presley, Pérec, Duras, un voyage sans âge.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
Samedi à partir de 14h10 temps universel et en podcast sur rfi.fr.